RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui au Brésil où les autorités tentent depuis quelques années de moderniser la gestion des déchets. Mais ce n'est pas seulement un défi environnemental, c'est une question éminemment sociale. À présent, une bonne partie du système de recyclage est confiée aux catadores. Ces trieurs de déchets travaillent sur les décharges, ramassent les matériaux, les trient et vendent tout ce qui est recyclable aux entreprises. C'est une véritable profession. Environ 1 million de Brésiliens vivent de ce business des poubelles. Il y a 3 ans, les autorités de Rio de Janeiro ont fermé la décharge ultra-polluante de Jardim Gramacho. Cette décision a plongé 20 000 personnes dans la misère. Profession catador, les recycleurs de Rio de Janeiro, un grand reportage d'Arim Nipot.
Jardim Gramacho, c'est d'abord un euphémisme, car ce quartier pauvre de la banlieue de Rio de Janeiro n'a rien d'un jardin comme son nom l'indique. Pendant des années, il a abrité la plus grande décharge à ciel ouvert de toute l'Amérique latine. C'est ici que la ville de Rio de Janeiro se débarrassait de ses ordures, nous explique le pasteur Anderson Leitchi. Le directeur de l'ONG Instituto Iji soutient les catadores et leurs familles.
Nous sommes ici dans la rue principale du quartier. Pendant des décennies, des centaines de tonnes de déchets ont été transportées tous les jours. Pour vous donner une idée, la décharge a atteint une hauteur équivalente à un immeuble de 14 étages. Avant, il n'y avait rien, c'était plat. Aujourd'hui, vous voyez cette montagne aux ordures sous laquelle s'entassent tous les déchets de ces 35 années d'existence de la décharge.
La décharge alimente aujourd'hui une usine de biogaz. Le site est fermé depuis 2012, officiellement en tout cas, car les déchets continuent à arriver clandestinement.
La plupart des déchets qui arrivent encore aujourd'hui proviennent des chantiers à proximité. Regardez là, devant nous. Vous voyez tous ces vautours qui tournent en l'air? C'est un indice pour un dépôt clandestin. Et regardez là, 3 dépôts clandestins, 2 qui sont déjà pleins et le 3e existe depuis 7 semaines. Il y a beaucoup de matériaux. Comment peut-on faire une chose pareille, jeter tous ces matériaux ici?
Au Brésil! Ici, c'est-à-dire devant la porte des maisons en bois dans lesquelles vivent les anciens catadores. 2 000 avec leur famille, 15 à 20 000 au total. L'odeur est insupportable, quelques cochons fouillent dans les poubelles, sur les rues en terre battue, les pluies ont laissé des grandes flaques d'eau. Impossible de marcher sans se mouiller les pieds. Nous rencontrons Brésil, 72 ans, assis devant sa cabane.
Je m'appelle Lémé Genou Elias, mais tout le monde m'appelle Brésil parce que je porte toujours les maillots de l'équipe brésilienne de football. Après la fermeture de la décharge, j'ai dormi pendant 1 an dans les ordures. Une ONG de Sao Paulo m'a finalement construit une petite cabane où je vis maintenant. J'ai travaillé durant 35 ans à la décharge. Aujourd'hui, je suis aveugle d'un œil et j'ai perdu un poumon à cause des gaz qui s'échappaient de la décharge. Mais bon, ça va, je me sens un peu mieux. Enfin, grâce à Dieu, je suis vivant.
Comme les autres catadores plongés dans le chômage, Brésil a reçu une indemnisation 14 000 reais, donc à peu près 4 000 euros pour 35 ans de travail, 7 jours sur 7.
J'ai rendu un certain service à la société, je suis monté sur la décharge et j'ai travaillé. J'en étais fier, je me suis réveillé tôt tous les matins pour travailler dans les ordures. Aujourd'hui je fais quoi? Il n'y a plus de travail pour moi, alors il ne me reste plus qu'à vivre dans cette cabane modeste.
Vous avez de l'eau potable ici?
Non, il n'y en a pas. On doit acheter des bonbonnes d'eau. C'est loin d'ici. Il faut prendre le vélo pour les transporter. Regardez, celle-ci est déjà vide. Voilà, je n'ai plus d'eau.
Brésil touche l'équivalent de 250 euros par mois, des indemnisations perçues à cause d'un accident de voiture. Pour lui, il n'y a pas de doute, sa situation était meilleure avant la fermeture de la décharge.
Ah, difícil.
C'est dur, s'il y avait du travail, je pourrais payer mes médicaments. Ils m'en ont prescrit, mais je n'ai pas de quoi les payer. Après la fermeture de la décharge, tout est devenu très cher, surtout l'eau et la nourriture. Avant, je pouvais manger pour 5 reyes. Aujourd'hui, je dois dépenser plus du double. J'ai un petit four à gaz qui me permet de me faire à manger, mais la bouteille de gaz est vide. Et là, je n'ai plus d'argent pour en acheter une, donc je n'ai plus de gaz.
À quelques pas de la maison de Brazil vit Daniela. Elle aussi a perdu son travail avec la fermeture du dépotoir.
J'ai travaillé à la décharge depuis l'enfance, depuis l'âge de 11 ans. J'étais l'aînée de mes frères et sœurs. Tous les jours, je suis montée sur la décharge. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Je ne reçois aucune aide sociale parce que je n'ai pas de papier d'identité.
Lorsqu'ils ont fermé la décharge, comment cela a changé votre situation ?
Ma situation est encore plus difficile. J'ai 7 enfants et je suis sans emploi. Il y a des jours où je ne mange pas.
Combien gagnez-vous à la décharge ?
À peu près 200 reais par jour. Et aujourd'hui, plus rien. Je n'ai même pas d'argent pour m'acheter du pain pour demain. Ce matin, je suis allée fouiller dans les poubelles pour donner de quoi manger aux enfants. Voilà comment je survis.
Vous non plus, vous n'avez pas d'eau potable ?
Non, on dépend des bonbonnes d'eau. On paie 20 reais pour 20 litres. Du coup, j'ai construit une petite citerne et j'utilise l'eau de pluie.
Tian Santos écoute ses récits avec tristesse et colère. Lui aussi a été catador pendant des années. Né à Jardim Gramacho, au fils d'un ramasseur de déchets, il a passé toute son enfance en jouant avec les poubelles. Plus tard, il s'est instruit grâce aux livres trouvés à la décharge.
Le prince de Machiavel était un livre capital pour moi. Sans l'avoir lu, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Le jour où j'ai décidé de lutter pour nos droits, j'ai cru que tout le monde allait nous soutenir, que cette lutte était considérée comme légitime et que par conséquent, personne n'allait nous mettre des bâtons dans les roues. Mais non, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt à nous maintenir dans la misère. Machiavel parle beaucoup du pouvoir et des jeux de pouvoir. J'ai commencé alors à transposer ces textes à ma réalité et j'ai compris que je devais être moins agressif et plus stratégique.
Le jeune recycleur monte une coopérative pour défendre les droits des catadores et de Jardim Gramacho. Lorsque le site ferme en 2012, à quelques semaines de la conférence internationale Rio plus 20, il négocie des indemnisations et des formations pour les recycleurs. Aujourd'hui, il constate que les autorités et les entreprises n'ont pas tenu leurs engagements.
On nous a promis des formations en vue de reconversion professionnelle. Les entreprises étaient tenues de mettre en place un fonds destiné à réhabiliter le quartier. Elles s'y sont engagées par écrit. Jusqu'à présent, les habitants vivent toujours dans les ordures et se nourrissent des ordures de tous ces déchets qui continuent à être jetés clandestinement.
Ironie de l'histoire, le quartier Jardim Gramacho fait partie de Duque de Caxias, l'une des villes les plus riches de l'état de Rio de Janeiro. Plusieurs grandes entreprises se sont installées ici, dont Petrobras. Mais les autorités locales ne semblent pas être pressées de trouver une solution pour les catadores de Jardim Gramacho. Carlos Muniz, chargé de l'environnement à la mairie de Rio de Janeiro.
Une partie de ces catadores ont reçu des indemnisations des autorités locales, régionales et fédérales. Nous sommes confrontés à un défi d'ordre social. Il faut alphabétiser et intégrer ces anciens trieurs de déchets dans la société. Personne n'a envie de travailler sur les décharges. C'est l'expression d'une crise.
Ser catador não é uma profissão. Aquilo era a expressão de uma crise.
Une crise qui perdure depuis des siècles. Les premiers catadores du Brésil étaient des esclaves africains. Aujourd'hui, on estime qu'1 million de Brésiliens vivent grâce à ce travail de recyclage. Ignorés du grand public, leurs conditions de vie sortent au grand jour avec le documentaire Wasteland, Lixo Extraordinario en portugais. En 2010, ce film tourné à Jardim Gramacho sort dans les salles et provoque une grande émotion chez les spectateurs. Ils suivent le projet d'un célèbre artiste plasticien brésilien, Vic Muniz, qui part à la rencontre des catadores pour réaliser une série de portraits. Ces photos et peintures sont de véritables installations des œuvres d'art surdimensionnées, des œuvres faites de surcroît avec des objets trouvés à la décharge. L'idée de Vic Muniz, c'était de valoriser à la fois le catador lui-même et son travail.
Il ne faut pas du tout oublier que ces gens-là, ils ont un rapport avec leur propre image, basé sur les petites images qu'ils trouvent dans les téléphones cellulaires qu'ils trouvent dans la poubelle. Alors, ils se voient très petits tout le temps. Quand ils se voient très petits, dans les toutes petites photos. Et de se voir, cette représentation immense, qui est à peu près 25 mètres de longueur. Et pour la première fois, ils se voient grands. Ouais. Même s'ils sont faits avec des déchets, ils se voient d'une façon complètement différente de celle qui se voit dans les miroirs ou dans les petits téléphones qui c'est la façon comme ils se voient tout le temps. Ça change tout. Ouais. Ça change leur façon, leur propre identité est cassée là-dedans. Et c'est comme si c'était proposé une façon toute différentes, toutes diverses de voir le monde, de se voir à partir de ce moment.
O momento onde uma coisa se transforma em outra é o momento mais bonito. Aquele momento é momento mágico mesmo.
Le film est un grand succès et reçoit de nombreux prix. Il changera aussi la vie de Tian Santos, l'un des protagonistes du documentaire.
Para que isso e por que isso?
Nessa trajetória.
Dans ma vie, la seule chose que j'ai vraiment planifiée, c'était de me dire, il faut que nous nous organisions pour mieux défendre nos droits. Et d'un coup, vous vous voyez sur un écran de cinéma. Le film est ensuite nominé pour l'Oscar du meilleur documentaire. Et vous revenez d'Hollywood en vous pinçant, c'est vrai tout cela, c'est vraiment ce qui est en train de m'arriver.
Vous dites, caramba, cara, isso tudo aconteceu mesmo.
Avec son film, Vic Muniz rêvait de changer la vie de ses catadores, mais seul Tian Santos a réussi à s'en sortir. Pour ses collègues, rien n'a changé, au grand dam du pasteur Anderson Leitch.
Aujourd'hui, entre 13 et 15 000 personnes vivent ici, au-dessous du seuil de pauvreté, et les déchets continuent à leur coller à la peau. Les habitants de ce quartier sont considérés comme des ordures et ils se considèrent eux-mêmes comme des ordures. Ça paraît incroyable, mais c'est la vérité. Leur situation ressemble beaucoup à celle que l'on peut trouver dans un pays comme Haïti. La misère, la faim, l'abandon. Ici, il manque de tout. Voilà, c'est ça, Jardim Gramacho.
As pessoas precisam de tudo. Isso é Jardim Gramacho.
Il y a 7 ans, le pasteur Anderson Leitch est déçu par l'église évangélique qui est, selon lui, déconnectée de la population pauvre, voulait justement aller en Haïti. Finalement, il a trouvé Haïti au Brésil, comme il dit, à 30 km du centre-ville de Rio de Janeiro. L'ancien professeur en arts martiaux décide de monter un projet social dans ce quartier à la réputation dangereuse. Il crée un centre d'éducation sportive. Son objectif, sortir les jeunes de la rue. Après l'école, des centaines d'enfants et d'adolescents suivent quotidiennement les cours d'arts martiaux. Marco Antonio vient de faire inscrire son fils au cours de judo.
Moi aussi, j'ai grandi dans une favela à Copacabana. J'ai grandi au milieu des trafiquants de drogue. Et c'était un projet similaire qui m'a éloigné des mauvaises fréquentations. J'avais fait du karaté. Aujourd'hui, je suis diplômé, je ne bois pas, je ne fume pas. Et c'est grâce au karaté qui m'a imposé une discipline depuis que je suis enfant. On nous avait dit lors des cours, attention, la drogue c'est mauvais, l'alcool c'est mauvais. Cette éducation m'a sauvé la vie. Beaucoup d'amis d'enfance sont morts. Il faut très tôt donner un cadre aux enfants, sinon les trafiquants s'en occupent. Mon fils a 5 ans, c'est l'âge où j'ai commencé moi-même à faire du karaté. Et je le sais, tant qu'il fait du judo, il ne sort pas dans la rue et ne commence pas avec les drogues.
L'entraînement porte ses fruits. Certains adolescents ont pu remporter des compétitions régionales. Non sans fierté, le pasteur Anderson nous montre la collection des médailles.
Notre équipe de judo est l'actuel champion de la ligue locale, Fluminense, et vice-champion au niveau de l'état de Rio de Janeiro.
Le pasteur ne veut pas se reposer sur ce succès. Pour l'année prochaine, il prépare la création d'une école de musique à côté du centre sportif. Son espoir, contribuer à réhabiliter le quartier grâce au sport et à l'art. Tian Santos, lui aussi, a beaucoup de projets. 5 ans après avoir quitté la décharge de Jardim Gramacho, il travaille aujourd'hui comme conseiller indépendant pour l'environnement.
Aujourd'hui, je suis un militant, mais pas seulement un militant pour la cause des habitants de Jardim Gramacho. Ça reste une priorité, bien sûr, parce que je suis né et que j'ai grandi dans ce quartier, mais il existe encore 2900 décharges au Brésil, et il y a environ 1 million de catadores qui n'ont pas de perspective. Mon rôle, c'est de faire un maximum de bruit pour mobiliser les gens. Je travaille pour le projet gouvernemental Limpa Brasil, qui essaye d'inciter les gens à faire du tri sélectif. Vous savez, quelqu'un qui jette un papier par terre ne le fait pas parce qu'il a un mauvais caractère. Non, il n'a pas conscience de son acte. Avec Limpa Brasil, je vais dans les écoles pour sensibiliser les jeunes aux questions d'environnement.
Une des premières leçons que Tian Santos apprend aux enfants, c'est qu'il vaut mieux parler de matériaux recyclables que de déchets. Par respect pour le travail des ramasseurs, mais aussi parce que 50% des produits que l'on jette peuvent être recyclés. L'ancien catador aime d'ailleurs citer Lavoisier, selon lequel, dans la vie, rien ne se perd, tout se transforme.
Je suis Tian Santos. Eu sou catador.
Eu sou Marina Persson. Eu sou catadora.
Sou Marília.
Profession catador, les recycleurs de Rio de Janeiro, un grand reportage d'Armi Lipold, réalisation Soel Kedir.
O lixo está se tornando problema cada
Bonjour Armi Lipold.
Bonjour Charlotte.
On vous retrouve après ce reportage sur les catadores. Ils sont vraiment une véritable institution au Brésil.
Oui, d'ailleurs, c'était une des images qui m'a frappé lors de mon premier séjour au Brésil. Charlotte, vous voyez partout des gens qui fouillent dans les poubelles à la recherche des cartons, des bouteilles plastiques ou des canettes de boissons. Ils les mettent ensuite dans des chariots avec lesquels ils se déplacent dans les rues.
Et comment ils s'organisent ?
Alors, il n'existe pas de statistiques sur cette profession. On estime qu'entre 800 000 et 1 million de Brésiliens, effectivement, gagnent leur vie avec le recyclage. Alors, certains sont organisés en coopérative, mais c'est une minorité, à peu près 10%. La grande majorité exerce ce métier à son propre compte.
Et l'industrie du recyclage, c'est un véritable business.
Oui, effectivement, car tout ce qui peut être recyclé possède une certaine valeur. Alors, pour vous donner un exemple, Charlotte, en 2012, la vente des matériaux recyclables a atteint 700 millions de reais, donc 250 millions d'euros, mais les recycleurs, eux, n'ont touché que 8% de cette somme.
Alors, le défi maintenant pour le Brésil, c'est de moderniser son système de gestion de déchets qui n'est plus aux normes, tout en intégrant ces catadores.
Oui, effectivement, il existe encore beaucoup de décharges à ciel ouvert. Alors, ces dépotoirs sont très nocifs pour l'environnement. Ils émettent du méthane et polluent les sols. Et c'est pour cela que Jardim Gramacho a été fermé, parce que les déchets commençaient à contaminer les eaux de la baie de Guanabara, là où vont se dérouler l'année prochaine certaines épreuves nautiques des JO. Alors, le problème, c'est si on ferme les dépotoirs, alors qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui en ont besoin pour survivre? Alors, l'exemple de Rio de Janeiro montre que les autorités n'ont pas de plan B, en fait.
Dans votre reportage, un catador raconte qu'il est fier de son travail. Est-ce que c'est un avis qui est partagé par ses collègues? Quel regard les ramasseurs portent-ils sur leur métier?
Alors, quand on parle avec eux, Charlotte, ils disent tous qu'ils sont fiers de ce qu'ils font. Ils ont l'impression de rendre un service à la société. Tian Santos, que nous avons entendu dans le reportage, a fait un énorme travail pédagogique dans les médias. L'image des catadores change au Brésil. Ultime consécration pour cette profession dans la telenovela Imperio. Un catador joue désormais un rôle de plus en plus important. Alors, dans la réalité, pourtant, le scénario s'assombrit pour cette profession. Les ramasseurs sont touchés de plein fouet par la crise économique, car le prix des matériaux est en baisse. Et pour ne pas perdre leurs revenus déjà maigres, les catadores allongent leur journée de travail. Certains passent 12 heures par jour à ramasser cartons, bouteilles et canettes pour environ 200 euros par mois. C'est la moitié du SMIC au Brésil.
Profession catador, les recycleurs de Rio de Janeiro. Votre grand reportage à Rimlipold, on peut le réécouter, le retrouver sur RFI.
Autour de la question.